Les petites chroniques de notre histoire avec Claire Vanekin.
Les petites chroniques de notre histoire sur RVR avec Claire Vanekin qui s'intéresse aujourd'hui à un vieux métier d'autrefois,
voilà. Hein,
les charrons.
Les charrons. Ah, vous savez que la vie des charrons, justement, j'en parle notamment dans mon dernier ouvrage, hein, De la terre à la mine, puisque justement, je leur consacre un chapitre à ce travail du charron. Vous voyez, parce que c'est vraiment, comme vous le disiez, des métiers complètement obsolètes aujourd'hui.
Bien sûr.
Alors, complètement disparus, et pourtant, ça a été durant des siècles, bon, je dirais presque des millénaires d'ailleurs, hein, d'une importance capitale dans tous les plus petits villages de France. Alors chez nous ici, bien sûr, dans la Loire, la Haute-Loire, l'Allier, tous ces départements en majorité de population rurale.
Bien sûr. Hein,
c'était un métier quasiment vénéré, je pèse mes mots, vénéré, parce que indispensable à la vie des gens. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, il s'agit du métier du charron. C'est l'histoire, celle de ces hommes dont on vouait une quasi-admiration que je vais donc vous raconter.
Les petites chroniques de notre histoire sur RVR.
Alors c'est vrai qu'on parle souvent du domaine agricole d'autrefois, mais il y avait donc beaucoup de métiers qui gravitaient autour du paysan finalement.
Voilà, bien sûr. Alors vous aviez bien entendu les ouvriers agricoles. Mmh. Hein. Vous savez, c'est ceux qu'on appelait les commis de ferme. Alors, c'était des gens qui se louaient pour la journée ou pour une saison, principalement au moment des gros travaux d'été. C'était un mode d'embauche, en pesant mes mots. Mmh. Ça s'appelait la louée.
Mais oui, louer leurs bras.
Ils louaient leurs bras. Donc, ils se retrouvaient bien souvent sur des places, de villages, à telle date. Et les paysans, les agriculteurs, venaient voir ces hommes et proposaient leur travail, ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils savaient pas faire. Bon, il faut savoir que, pour l'avoir vécu moi-même, hein, et je ne suis pas du Moyen-Âge, bien que je ne sois plus toute jeune, mais enfin, quand même, j'ai connu des commis de ferme qui étaient vraiment très maltraités. Dans les fermes, autour de chez nous, il y avait, quand j'étais petite, des commis qui étaient vraiment des bêtes de somme. Hein. Ils travaillaient uniquement pour leur nourriture et les trois quarts du temps, ils étaient même mal nourris. C'était vraiment...
On les exploitait.
Difficile, quoi. Très difficile, très exploité, carrément exploité. Alors, il y avait certaines fermes dont je ne voudrais pas avoir l'apanage du truc. Mais chez nous, on avait des commis. Je peux vous dire que ma maman les traitait, mais on ne peut mieux. Et je me souviens très bien que ma maman, le dimanche, faisait le gâteau. Vous savez, comme toutes les dames. Eh bien, le commis avait son gâteau.
Oui, ça part.
Son gâteau.
Ah oui.
Et elle le coupait au milieu, elle mettait de la confiture et elle lui donnait son gâteau. Et le commis, chez nous, il était logé dans une petite maison attenante qu'il avait surnommée la Villa des Chouettes. Ça, c'est pour la petite anecdote, mais c'est joli.
Ben oui.
Et il partait avec son gâteau et il disait en patois, mais bon, je vais le dire en français, « Ah, patroune !» Et ça, je me rappelle. Hein. « Ah, patroune, patroune, vous étiez la meilleure patroune de tout le monde entier. » Il s'appelait Joigny Blétry, ce vieux monsieur. Et je me rappelle de lui, et c'était un homme qu'on aimait chez nous. Mais par contre, il y avait des commis alentour qui venaient justement à la Villa des Chouettes trouver ce commis pour pouvoir manger, parce que ma mère donnait à manger un petit peu à tout le monde.
D'accord.
Vous voyez ? Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
Bien
le
sûr.
Monde rural, je l'écris, je l'aime, je le mets à l'honneur, mais...
Vous le critiquez aussi quand c'est
voilà.
nécessaire.
Voilà, il y avait des travers, il faut les dire.
Bien sûr.
Il faut les dire.
Alors revenons aux charrons.
Donc, voilà, donc il y avait
pourquoi,
ces ouvriers,
voilà.
Il y avait les sabotiers, il y avait les forgerons, il y avait les meuniers, on n'en veut plus non plus,
les scieurs de
le maréchal. Alors les maréchaux ferrants, la mode remonte en poupe là, hein, puisque beaucoup de gens maintenant ont des chevaux. De plaisir, de loisir. Et les maréchaux ferrants, on en trouve pas mal quand même. Hein.
C'est vrai, ça
c'était un métier qui était disparu et qui revient, qui réapparaît, et tant mieux. Il y avait les scieurs de long. Mmh. Vous voyez ? Donc tous ces métiers-là, bah, justement dans mon livre De la terre à la mine, j'en parle et j'explique leur travail, leur savoir-faire, toute cette histoire. C'est un hymne aux métiers disparus. Il faut en parler de ces gens-là. Voilà. Et les charrons, donc, pour en revenir, ils avaient beaucoup d'importance tout simplement parce que sans charrons, dans une commune rurale, eh ben, il ne restait presque rien de cette économie parce qu'il faut se souvenir que ça permettait la vie de tout un peuple, toute une région. Et rappelez-vous ce que disait Sully, hein, le fameux ministre d'Henri IV.
On l'apprend à la communale.
Ouais, oh, vous croyez qu'on l'apprend encore? Oh, j'ai des doutes,
plus aujourd'hui,
j'ai des doutes. Hein. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Eh bien, si on ne leur apprend plus, moi, je le rappelle. Voilà. Donc... est-ce que c'était vrai à cette époque, il n'y a pas si longtemps? Vous savez, entre les deux guerres, c'était bien encore le cas. Et pour pouvoir travailler la terre, il ben, fallait des outils.
Et oui, parce que l'agriculture n'était pas encore mécanisée
et
à cette époque-là.
Bien sûr que non.
Donc, les charrons fabriquaient des roues de char.
Oui.
Char, charron.
Voilà, et ça vient de là, hein, de toute façon. Donc, des roues de char, des roues de tombereaux. Vous savez, les tombereaux, je pense que les gens connaissent un petit peu. C'est ces espèces de charrettes, on pourrait dire. Ah, vous voyez, le tombereau, c'est un mot de chez nous, c'est ça.
Mais plus grand, quoi.
Plus grand, bien sûr. Ils fabriquaient des roues. La brouette,
oui.
Les roues de brouette. Et les voitures à cheval. Et puis, il y avait aussi les corbillards.
Ah, ben, bien sûr.
Et les corbillards qui étaient traînés à l'époque par des chevaux. Par les chevaux. Et je me souviens, quand j'étais enfant, d'avoir vu le corbillard tourner dans la cour d'une ferme avec le cheval et le corbillard qui était tout noir et le cheval qui était harnaché en noir. Je m'en souviens. Vous voyez, donc, je peux dire mon âge parce que ce n'est pas inscrit. Je suis née en 1951. Donc, c'était dans les années peut-être 55, 6, 7, 8. Vous voyez, j'étais petite. Mais je m'en souviens. Alors, il faut savoir qu'il y a un adage qui se disait dans les ateliers des charrons. Alors là, je cite. Toute personne a pu, plus ou moins, fabriquer une brouette, mais ce que les gens n'ont jamais fait de leur vie, c'est une roue. Cette pièce est réservée à la profession. Ça, c'était écrit dans certains ateliers de charrons.
Voilà, la charte du charron.
Oui, tout à fait. Alors, travail très délicat, parce qu'il fallait allier le travail du bois et celui du fer. Quelquefois, ça arrivait. Le charron travaillait en collaboration avec le forgeron, ça arrivait. Mais parfois, il faisait tout seul. Et dans ce cas, on l'appelait tout simplement le charron forgeron. Et ça se trouvait aussi dans les villages. Et je peux vous dire que le charron forgeron, il était drôlement bien apprécié. Hein.
Donc, il travaillait le bois.
Oui.
Alors, quel genre de bois pour faire des roues?
Alors, là aussi, il fallait faire très attention. Il fallait du bois dur, mais souple. Bon, le moyeu était en orme. Les raies étaient en acacia. Et le tour de jante en frêne. Ça, c'était pratiquement tout le temps comme ça. Du coup, ça faisait aussi une activité pour les forestiers. Et puis, bien sûr, il fallait le travail le plus difficile, le plus ingrat, c'était le cerclage. Quand il fallait cercler cette roue en bois avec les cercles en fer.
Voilà, c'était pas le pneu encore.
Non. Donc, il faut savoir que dans certaines régions, il y avait des roues qui n'étaient pas cerclées de fer.
Bon.
Près de, par exemple, de Saint-Priest-la-Prugne, il y avait un monsieur qui fabriquait des roues tout en bois. Vous voyez ?
D'accord.
Mais c'était très rare. 99% des cas, les roues étaient toujours cerclées de fer. Bien sûr, parce qu'autrement, elles se seraient usées très, très vite. On n'a rien de temps. Hein. Bah, vous savez, quand il fallait passer dans les forêts pour débarder le bois, il y avait des trous, il y avait des ornières, il y avait des cailloux.
Ah bah oui, c'était pas goudronné comme aujourd'hui. Hein.
Là, non, sûrement pas. Hein. Donc, c'était effectivement ce cerclage qui donnait la solidité. Alors, ils allumaient un grand feu qui s'appelait la fouée. Ça, non, pas nous, pas toi, terme local, ça s'appelait la fouée. Et ils mettaient du bois tout autour en rond, comme ça, voilà, bien, bien mis comme il faut, un petit peu, comment je pourrais dire, les gens ne voient pas mes gestes, sur champ, hein, voilà, et on mettait un grand feu au milieu. Au milieu de ce grand feu, on jetait les cercles en fer, hein, on les mettait au milieu de ce feu. Le cercle était chauffé à rouge, il s'était chauffé au rouge. Donc, il prenait des grandes pinces. Mais imaginez la difficulté du travail.
Ah oui, parce que les roues pouvaient être
énormes.
Donc, il fallait un feu.
Énorme, il fallait un grand feu. Donc, avec des grandes pinces, il prenait cette roue qui était toute rouge. Il la plaçait sur la roue en bois.
En bois, donc à côté.
Donc, à côté. Tout de suite, il fallait faire vite. Faut faire vite parce que ça se refroidit vite.
Et oui, puis ça pouvait brûler le bois.
Ça aurait pu brûler le bois,
mais non,
parce que il y avait plein de gens autour. Alors souvent, c'était les femmes ou les gamins qui étaient mobilisés. Et il y avait plein de seaux d'eau. Et hop, et hop, et hop, on balançait des seaux d'eau dessus.
D'accord.
Donc le cercle avait le temps de prendre bien, d'épouser la forme du bois bien comme il faut, sans le brûler. Alors quelquefois, il y avait quand même des flamèches un petit peu qui sortaient. Vite, vite, fallait de l'eau. Et il y avait de la fumée. Imaginez la difficulté du travail.
Et la chaleur que ça devait dégager.
Là. Je vais presque dire que c'était une vie dans le village, parce que ça vibrait au son du cadencé du marteau sur l'enclume. Ça s'écoutait. Hein? Et ça se répercutait. Il faut imaginer, il faut se replonger dans l'histoire de l'époque. Il faut entendre ces bruits que l'on n'entend plus aujourd'hui. Comme vous le disiez, le maréchal, quand il ferrait le cheval, hein, il y avait une odeur, l'odeur de la corne brûlée. Tout ça, ça a disparu, mais c'était la vie, absolument la vie de nos villages, quoi.
Ah ben on porterait plainte aujourd'hui si on entendait ces bruits-là dans la campagne, n'est-ce pas? Le bruit du coq ou des cloches.
notre coq Maurice. Enfin, il a gagné, Maurice, alors on s'en fout.
Oui.
Ça sonnait, vous savez qu'on disait quand le marteau sur l'enclume, ça sonnait un peu comme un bruit de cloche. Comme un son de cloche, pas un bruit, un son de cloche. Hein, voilà. Donc, j'ai rencontré, d'ailleurs, justement, pour mon bouquin, là, j'ai rencontré des anciens, un ancien forgeron, et il me disait, alors, on disait que l'enclume devait avoir un certain son. Il me dit non, quand le forgeron était un bon forgeron, l'enclume avait certainement un rôle, oui, mais c'était pas l'enclume qui faisait le plus gros du boulot.
Ouais.
Il faut reconnaître que c'était quand même une véritable âme, ouvrière, une âme rurale, ouvrière, dans nos villages, avec ses bruits, ses différents corps de métier. Les roues se ferraient de mai à juillet, parce que là débutait une forte utilisation du matériel roulant, bien entendu, les travaux des champs, l'été, et puis l'hiver, le charroi du bois.
Eh oui.
Parce que vous savez, alors, il y avait toujours cette période estivale où c'était, bien entendu, les foins, les moissons, les travaux des champs, les patates et tout ça. Et puis l'hiver, on ne restait pas sans rien faire pour autant. Donc c'était le bois.
Oui, c'est-à-dire qu'il fallait charrier le bois,
pour
chauffer les maisons.
Bien sûr. Voilà, donc, et puis, y en a qui vendaient. Les forestiers, c'était leur travail. Ils vendaient et ils descendaient même à la ville vendre leur chargement. Tout ça, ça se faisait avec des chars. Donc, besoin des roues et besoin des roues cerclées, bien entendu. Alors, vous savez, Philippe, que dans les villages de nos jours, il se déroule des fêtes paysannes. Hein,
bien sûr,
on en parle souvent. Oui. On arrive à trouver encore, quelquefois, dans certains villages, il y en a eu un notamment au Maillet de Montagne, il y a quelques années, un charron qui faisait une démonstration. Vous voyez?
Et alors après, donc, tout ça a disparu au fil des années, ouais, après la guerre.
Oui.
Donc ils se sont reconvertis, ces hommes-là, puisque vous parlez dans votre livre qu'ils ont travaillé à la mine, certains.
Ah bah, bien entendu. Alors, notamment sur Saint-Priest-la-Prugne, justement, tous ces petits paysans qui étaient sabotiers, qui étaient charrons, qui étaient forgerons, eh bien, ils sont descendus à la mine d'uranium de Saint-Priest-la-Prugne. Donc, effectivement, c'est le sujet de mon dernier opus, hein, de la terre à la mine. Et autrement, il y en a beaucoup qui sont devenus menuisiers.
Ah bah oui.
D'autres suite qui sont logique, oui. Suite logique des choses. D'autres qui sont devenus charpentiers aussi, vous voyez. Et puis quelques autres se sont dirigés dans l'industrie automobile. Et
eh bien oui, l'automobile, puisqu'il fabriquait des roues, donc
oui.
Michelin peut-être,
et
non
vous, eh ben
non,
vous
je
voulez,
suis pas loin.
Vous,
alors,
vous
allez-y.
Voulez un scoop? Oui. Eh bien, moi, je vais vous dire. On nous dit, on se souvient que messieurs Berlier...
Ah ben oui, Marius Berlier,
voilà,
de Lyon. Ouais.
Voilà. Eliez,
oui.
Voilà.
Ah oui.
Renault.
Ben oui, donc des marques liées aux voitures, aux automobiles, aux camions.
Aurait été, je le mets au conditionnel, parce qu'il y aura toujours la personne
qui aura...
Aurait été d'anciens charrons. Et donc, tous ces petits métiers aujourd'hui disparus qui étaient l'âme, je le répète, qui étaient l'âme de nos villages, on leur doit beaucoup. C'est grâce à eux que l'on a eu tout ce savoir-faire que l'on retrouve dans nos églises pour les charpentes, dans nos châteaux, tout ce fer forgé, tout ça, on le doit à nos hommes d'hier, parce que c'est pas si vieux que ça, qui avait un savoir-faire, qui avait une compétence, que l'on retrouve, on va dire, peut-être aujourd'hui quand même chez les Compagnons du Devoir.
Ah bah oui, qui existent toujours.
Qui existent toujours, et qui font un travail très apprécié, très pointu. Et chapeau, respect pour eux aussi. Mais moi j'ai envie de dire, respect, immense respect, pour ces hommes au savoir-faire qui nous ont légué notre histoire, une belle page de notre histoire.
Le patrimoine local avec Claire Vankeen sur RVR. Merci.
Ah, mais je le vis.
Mais
c'est
nous,
au fond de mes tripes.
Nous le ressentons, nous aussi. Merci encore et à la prochaine fois.
À la prochaine fois, avec grand plaisir. Merci à vous.
C'était les petites chroniques de notre histoire avec Claire Vankeen, une émission réalisée par Philippe Fust.